Qu'est-ce que la communication subliminale? On l'appelle également aujourd'hui communication infraliminaire.
Il est possible que l'homme disparaisse et continue à faire des sottises, mais il faut déjà dès maintenant se préoccuper d'un relais possible.
Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de l'émission des Savants de Marseille. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans l'émission concerne l'optimisation des performances sportives. Nous aborderons dans le cadre de ce thème deux points principaux. Donc, d'une part, l'amélioration du matériel utilisé par les sportifs et de leur entraînement pour améliorer leur performance. Et d'autre part, un point très controversé qui est le dopage. Dans le cadre de cette émission, nous avons la chance d'avoir deux intervenants. D'une part, Maxime Guéraud, étudiant en droit et également sportif de haut niveau en force athlétique et également en bras de fer. Donc Maxime, bonjour.
Bonjour.
Et d'autre part, un professionnel de santé, le docteur Bévy Lacroix, qui n'est pas avec nous actuellement, mais qui a très gentiment accepté de réaliser une interview que nous écouterons au cours de cette émission. Cette émission sera animée par Idriss Fassassi, doctorant en droit public à la faculté Paul Cézanne, et moi-même, Vincent Chabroux, doctorant en sciences du mouvement humain à la faculté des sciences du sport de Marseille. Donc pour commencer cette émission, nous allons introduire une petite anecdote qui résume, je crois, le problème des performances sportives. Et cette anecdote vous est présentée tout de suite par Idriss.
Pour introduire cette émission, une petite anecdote. C'est une histoire porteuse d'espoir, d'interrogation, qui se trouve basée sur un drame personnel et dont l'issue finale est proche. Cette histoire, c'est celle d'Oscar Pistorius, jeune athlète sud-africain de 21 ans. Le rêve d'Oscar est de participer aux Jeux Olympiques de Pékin. Et ce rêve se trouve actuellement entre les mains du tribunal arbitral du sport qui devrait décider, les 29 et 30 avril prochains, si Oscar peut ou non participer aux JO. Le cas d'Oscar suscite depuis un peu plus d'un an des réactions diverses au sein du milieu sportif. Pourquoi cela, me direz-vous? S'est-il dopé? S'est-il rendu coupable d'une quelconque infraction à la réglementation sportive? Eh bien non, ou plutôt, pas exactement. La particularité d'Oscar Pistorius est qu'il a été amputé sous les deux genoux à l'âge de 11 mois. Il a naturellement appris à marcher avec des prothèses. Enfant et adolescent, son sport favori est le rugby, qu'il a pratiqué jusqu'à l'âge de 18 ans. En 2004, suite à une blessure qui l'éloigne des terrains, il découvre l'athlétisme et le sprint, qui devient vite sa nouvelle passion. Les progrès et performances d'Oscar sont tout simplement remarquables. Grâce notamment à ses deux prothèses en carbone, il a été sélectionné aux Jeux Paralympiques d'Athènes en 2004 et il s'est adjugé le titre sur 200 mètres et s'est classé 3e du 100 mètres dans la catégorie réservée aux amputés d'une jambe. Fort d'une impressionnante progression chronométrique depuis, il s'est aligné en mars 2007 au Championnat d'Afrique du Sud pour valide, se classant 2e du 400 mètres. De quoi se prendre légitimement à rêver, à participer aux JO de Pékin, me direz-vous. En juillet 2007, au meeting de Rome, il participe pour la première fois à une course internationale avec les valides et obtient in extremis la 2e place du 400 mètres. C'est alors que les choses commencent à se compliquer. La Fédération internationale d'athlétisme édicte à la même époque un règlement visant à proscrire, je cite, « les ressorts, roues ou tout autre élément qui donne à l'utilisateur un avantage sur ses concurrents n'en usant pas ». En accord avec l'athlète, les experts se livrent à une série d'expériences pour déterminer si les prothèses d'Oscar lui procurent un réel avantage. Le conseil de la Fédération internationale d'athlétisme a rendu sa décision en janvier 2008. Le verdict est qu'Oscar Pistorius ne pourra pas participer aux JO, car ses prothèses de carbone constituent une aide technique contraire au règlement. Selon le professeur Brüggermann, les lames incurvées en fibres de carbone restituent en effet mieux l'énergie que les articulations des athlètes. Oscar Pistorius a fait appel devant le tribunal arbitral du sport, qui rendra donc sa décision à la fin du mois. Si les performances d'Oscar font de lui un bon athlète, un très bon athlète, il reste toutefois loin des meilleurs temps mondiaux. Il se trouve en effet à plus de 3 secondes du record mondial. La question de savoir si les prothèses d'Oscar lui procurent une aide contraire au règlement est complexe, et il n'est pas ici question d'y apporter une réponse. En effet, l'enjeu n'est peut-être pas là. Il dépasse le cadre sportif. Il est peut-être dans le dépassement des contraintes, des limites physiques ou autres, qui, au-delà du sport, constituent l'aspiration de chaque être humain. Et pour conclure, je citerai Oscar Pistorius lui-même. Voici la raison pour laquelle il souhaite pouvoir courir avec les valides. Handicapé pour moi, cela signifie qu'il y a quelque chose que je ne peux pas faire. Or, il n'y a rien que je ne puisse faire.
Si la technique bénéficie aux personnes souffrant d'un handicap, comme nous venons de le voir dans cette anecdote, elle bénéficie également aux athlètes valides. En effet, la plupart des équipementiers réalisent à l'heure actuelle des recherches sur leur matériel afin de permettre aux sportifs d'améliorer leur performance. Nous avons vu récemment le cas des combinaisons Speedo qui a fait un grand débat dans la natation et qui permettait aux sportifs d'augmenter très fortement leur performance. D'autre part, des équipes sportives font également directement appel à des équipes de recherche afin d'améliorer l'efficacité du geste sportif. Des entreprises se sont même spécialisées dans le développement de logiciels permettant d'optimiser les performances. Pour ma part, j'effectue un doctorat en partenariat avec l'équipe cycliste professionnelle Bouygues Télécom. L'objectif de ma thèse est d'améliorer la position des coureurs cyclistes lors des courses de contre-la-montre. Le but de cette thèse est d'améliorer leur performance aérodynamique, mais également biomécanique, ce qui correspond à l'efficacité de leur pédalage et donc leur manière, leur position sur le vélo, afin d'améliorer et leur efficacité de pédalage et leur pénétration dans l'air dans ces courses où la vitesse est prédominante. Nous pouvons donc dire sans hésitation que l'amélioration des performances sportives constatées ces dernières années est en partie liée aux recherches sur les sportifs, mais également au développement des équipements qu'ils utilisent lors des compétitions. Après ce rapide point sur l'amélioration des équipements sportifs dans les différents domaines, nous allons maintenant avoir la chance d'écouter une interview du docteur Bévilacqua. Donc docteur, nous allons vous poser des questions d'ordre général sur le dopage dans le sport. Est-ce que vous pensez que la totalité des sports sont concernés par le dopage ?
Oui, personnellement, je pense que la totalité des sports sont concernés par le dopage. Enfin, si c'était que personnellement, ce ne serait pas grave. Mais tout nous laisse penser à croire qu'il n'existe pas un sport qui soit indemne de ce fléau.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des sports dans lesquels le dopage est beaucoup plus présent que d'autres ?
Alors, il y a des sports où le dopage a été encore présent, je ne sais pas, mais plus visible. Bon, on a tous l'exemple du cyclisme en tête, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, de l'athlétisme et, disons, de la natation à une certaine époque, où le dopage était quelque chose d'institutionnalisé, en particulier dans les pays comme la RDA, comme vous le savez. Et maintenant, qui dit visible ne veut pas dire forcément plus présent. Il y a peut-être des sports où le dopage est moins visible, mais tout aussi présent.
Est-ce que vous pensez que quand des sportifs sont dopés dans un sport, forcément l'ensemble des sportifs qui pratiquent ce sport à un niveau professionnel sont dopés ? Est-ce que vous pensez que des sportifs non dopés ont une chance de rivaliser avec des sportifs dopés ?
Alors là, je ne veux pas trop m'engager là-dedans, mais on va poursuivre un raisonnement logique. Il est admis que, par exemple, dans le 100 mètres plat, l'avantage du dopage, on va dire, sans rentrer dans les détails du dopage, apporte des avantages de l'ordre de 2 dixièmes, voire 2 dixièmes et demi de seconde. Lorsqu'on sait que à 2 dixièmes ou 2 dixièmes et demi de seconde près, il y a plusieurs centaines d'athlètes dans le monde qui sont dans ces temps-là, on a des difficultés quand même à croire qu'un sportif non dopé sur 100 mètres plat puisse arriver en finale olympique où, je vous rappelle, il y a 8 participants. Donc ça, c'est une réflexion personnelle que je me fais sans aucune preuve, mais j'imagine que s'il y avait un non dopé parmi les 8 et qu'il se dopait, il battrait tout le monde de 2 dixièmes de seconde, soyons logiques.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des produits et des moyens actuellement utilisés pour se doper par les sportifs de manière générale ?
Alors actuellement, c'est très très difficile parce que actuellement on est dans une, le dopage a été quelque chose d'artisanal pendant des années, mais là nous sommes vraiment dans une professionnalisation du dopage et nous sommes au niveau médical un petit peu, si on pousse une comparaison d'un point de vue technologique, au niveau de la NASA. Alors actuellement, il y a des tas de choses dont on parle. Alors le dopage un petit peu classique ces dernières années avec les hormones de croissance, les stéroïdes anabolisants, la cortisone, qui sont des hormones qu'on produit normalement, mais qui aident, le PO. Disons qu'actuellement, on a des méthodes pour les déterminer qui sont assez performantes, à condition qu'on ait la volonté de le faire, bien entendu. Donc on est peut-être passé déjà à un stade au-dessus de tout ça. Et ce stade au-dessus de tout ça, bon, je ne veux pas rentrer dans des détails techniques, mais il s'agit par exemple de ce qu'on appelle des thérapies géniques. Alors, c'est toujours la même chose dans le dopage. En fait, on utilise la plupart du temps des produits ou des méthodes qui sont destinées à la santé publique ou à améliorer la santé publique et qu'on utilise à d'autres fins. Et les thérapies géniques, ce sont en gros des manières d'utiliser des cellules qui sont des cellules embryonnaires et qui ont des caractéristiques extrêmement souples dans leur évolution pour permettre la récupération et pour permettre la récupération des blessures et la préparation des individus aux efforts et qui, selon certaines sources, seraient détournées donc au profit d'athlètes pour leur permettre justement une préparation beaucoup plus poussée et une réparation, disons, de leurs lésions et de des blessures provoquées par l'entraînement plus importante, en sachant que actuellement et depuis quelques années, le dopage ne s'adresse pas au dopage en compétition, mais s'adresse au dopage dans la préparation des compétitions pour augmenter les charges de travail qui vont leur permettre d'améliorer leur performance. Or, qui dit augmenter leur charge de travail dit travailler beaucoup plus, donc risquer beaucoup plus, entre autres, de se blesser, forcément, en soumettant leur organisme, leurs articulations, leurs tendons, etc., à des efforts beaucoup plus importants, donc risque de blessures plus importantes, donc des produits pour récupérer beaucoup plus vite de ces blessures, ou en tout cas les prévenir. Donc actuellement, nous sommes un petit peu dans ce système-là. Maintenant, je vous avoue que n'étant pas directement impliqué là-bas, je pourrais difficilement vous donner de détails plus importants.
D'accord, donc vous venez d'évoquer rapidement les conséquences du dopage sur la santé des sportifs. Est-ce que vous pensez que, dans une certaine mesure, ça pourrait réduire la durée de vie des sportifs ou éventuellement dégrader leur métabolisme beaucoup plus vite ?
C'est un fait avéré. C'est un fait tellement avéré que pendant des années, les États-Unis ont eu une politique extrêmement laxiste vis-à-vis du dopage. Il n'y avait même carrément pas de contrôle antidopage dans des tas de sports typiquement américains comme le football américain, le baseball, voire le basket. Des sports, disons, qui ne s'adressaient pas trop à l'international où, malgré tout, il y avait quand même des règles. Et devant l'hécatombe, c'est vraiment une hécatombe de sportifs de haut niveau, en particulier dans le football américain, les Américains ont complètement changé de fusil d'épaule parce qu'il y a eu un certain nombre de vedettes et de gens, de professionnels du football américain qui sont décédés de manière très suspecte à un âge très jeune, soit au cours de leur carrière, soit en début de carrière, soit même juste après leur retraite. Que c'est devenu un problème quasiment de santé publique et que les Américains, comme je vous dis tout à l'heure, ont changé leur fusil d'épaule et actuellement, malgré les pressions financières, ont quand même, sous la poussée de l'opinion publique et des médias, été obligés d'adopter des mesures beaucoup plus fermes qu'auparavant, quoi.
D'accord. Vous parliez tout à l'heure que le dopage ne s'effectue pas uniquement en compétition, mais aussi lors de la préparation des athlètes. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, il y a des moyens de dépistage qui permettent justement de vérifier si les athlètes se dopent en compétition, pendant les compétitions, mais aussi en dehors des compétitions? On sait que les cyclistes, justement, il y a une forte politique antidopage dans le cyclisme. Les cyclistes peuvent être contrôlés en dehors des compétitions.
Oui, bien sûr. Actuellement, on peut dire que le dopage est quasi, enfin, en tout cas, un très haut niveau, bien sûr, hein, un haut niveau, et est exclusivement réservé à la préparation et n'est plus du tout pris dans le cadre d'une compétition, car ce serait trop facile à déceler, quoi. Hein. Donc, les contrôles antidopage existent, bien entendu, au cours des compétitions, mais enfin, ils donnent quasiment aucun résultat. Et actuellement, on a ce qu'on appelle des suivis longitudinaux, qui font que les athlètes sont obligés de se soumettre à des contrôles. Quand je dis athlète, je parle d'athlétisme, je parle de cyclisme, un peu moins dans le football ou dans d'autres sports, sont obligés de se soumettre à des contrôles et ont même un petit carnet où il y a un suivi médical à ce sujet. Et d'ailleurs, l'année dernière, le maillot jaune du Tour de France, Rasmussen, a été exclu du Tour de France, pas parce qu'on avait déterminé qu'il s'était dopé, mais simplement parce qu'il ne s'était pas soumis à une période donnée, à ce suivi qui était obligatoire. Et il a été exclu par défaut, plus que par preuve d'avoir été dopé. Donc ça prouve que, bien entendu, il y a des suivis. Alors maintenant, ces suivis sont plus ou moins bien mis en place dans des sports par rapport à d'autres sports. Il y a tellement d'intérêts qui sont en jeu. Et la natation, le cyclisme, l'athlétisme, il semble qu'il y ait quelque chose d'assez rigoureux qui soit mis en place. Dans d'autres sports, comme le tennis par exemple, ou le football, il semble que ce ne soit pas du tout le cas.
D'accord. Et concernant justement cette généralisation du dopage, est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas mieux de légaliser le dopage dans une certaine mesure pour avoir arrêté cette hypocrisie autour de l'amélioration des performances sportives des sportifs dopés?
Le problème, c'est il y a un problème éthique qui est le problème de la tricherie. De dire, bon, on se dope, on utilise des moyens illicites, donc on obtient des résultats par tricherie. Et puis il y a le second problème qui est plus important pour nos médecins, c'est le problème de santé. Et que lorsqu'on utilise des thérapeutiques pour soigner quelqu'un, on prend toujours des risques à utiliser ces thérapeutiques, mais on les prend en connaissance de cause, puisque... on soigne quelque chose, donc on a plus d'avantages que d'inconvénients. Dans le cas des sportifs, le seul avantage que l'on aurait à utiliser ces thérapeutiques, parce qu'il ne faut pas oublier que toute thérapeutique est dangereuse, hein, il n'y a pas de risque zéro à prescrire quoi que ce soit à quelqu'un, et donc le seul but, ce serait d'améliorer ses performances sportives. En tant que médecin, on ne peut pas considérer qu'il y a un équilibre. Les avantages sont évidemment nettement inférieurs aux inconvénients qu'on peut avoir, quoi. Quand vous utilisez de l'EPO chez quelqu'un qui a insuffisant rénal, parce que l'EPO a été créé pour ça, vous savez que si vous n'utilisez pas l'EPO, le type va mourir. Donc vous utilisez l'EPO. Quand vous utilisez de l'EPO chez un cycliste pour qu'il grimpe un col 5 km plus vite, vous savez qu'il y a des risques de le tuer avec l'EPO. Mais le seul avantage, c'est qu'il monte le col 5 km plus vite. Donc bon, la réponse, je veux dire, vous la trouverez vous-même, quoi.
Très bien. Et concernant l'amélioration des performances sportives ces dernières années, on sait que les chercheurs font beaucoup d'études sur les équipements des sportifs, que ce soit les maillots de bain pour la natation ou les chaussures pour la course à pied ou même les vélos pour le cyclisme. Est-ce que vous pensez que l'amélioration des performances ces dernières années sont dues à l'amélioration de l'équipement utilisé par les sportifs ou à un meilleur dopage, si on peut dire meilleur dopage des sportifs, ou lié aux deux phénomènes?
Bon, alors, deuxième, il y a trois éléments. Bon, l'amélioration du matériel, oui, bien sûr, c'est évident. Je veux dire, on étudie des vélos pour qu'ils aillent plus vite, on a des chaussures pour qu'ils aillent plus vite, on a des combinaisons de natation pour qu'ils aillent plus vite. Alors là, maintenant, ce n'est pas un problème médical, hein, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, c'est éthique, c'est pas éthique, ça met les gens à égalité, ça triche pas. Mais à la limite, c'est pas tellement un problème médical, ça. Hein. Je pense pas que le fait de porter une combinaison puisse nuire à la santé de quelqu'un. Maintenant, bon, ça c'est un problème purement de fédération sportive ou de sportif. Il faut pas penser qu'au dopage, on va pas être complètement paranoïaque. Il y a quand même une très très grande amélioration dans la prise en charge des sportifs, leur alimentation, leur méthode d'entraînement, des techniques d'entraînement, des techniques de dosage de l'effort qui ont été étudiées, etc. Là, c'est parfait, je veux dire, parce que ça améliore les performances tout en ne nuisant pas, on va dire, de manière directe à la santé. Parce qu'il faut savoir qu'un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui, de toute façon, nuit à sa santé parce qu'il produit des efforts tellement importants qu'un organisme humain n'est pas fait pour supporter ses efforts. Il a un capital tendon, un capital ligament, un capital cœur, et peut-être en poussant à l'extrême, comme on le fait dans les sports de haut niveau, le sport de haut niveau n'est pas bon pour la santé. Le sport est bon pour la santé, pratiqué d'une certaine manière, mais le sport de haut niveau n'est pas bon. Enfin, on ne va pas supprimer le sport de haut niveau sous ce prétexte, quand même. Donc, il y a des techniques tout à fait, on va dire, physiologiques, visant à améliorer la performance des sportifs. Donc, on va dire que l'amélioration, moi, je pense, des performances, elle est probablement liée aux trois facteurs, mais j'espère, je dis bien j'espère, qu'elle est plus liée aux deux premiers facteurs qu'au troisième.
D'accord, très bien. Est-ce que vous pensez que d'une manière ou d'une autre, on arrivera un jour dans le sport à éradiquer le dopage de manière complète, ou est-ce que vous pensez que les médecins qui s'occupent des athlètes seront toujours en avance par rapport au dépistage du dopage? Est-ce qu'il y aura toujours le dopage présent dans une majorité de sports?
Alors, n'accusons pas les médecins. N'accusons pas les médecins et ne mettons pas la faute sur tous les médecins. Moi, je pense que dans la plupart du temps, même s'il y a des médecins qui collaborent dans le dopage, je crois à l'éthique de la plupart de mes confrères. Hein, et je pense que si ces médecins sont dans le coup, je vais dire quelque chose, je vais utiliser une expression, je pense qu'ils sont là pour limiter les dégâts. Alors peut-être qu'ils sont à la fois complices, mais ils sont aussi là pour limiter les dégâts parce qu'ils se disent il vaut mieux qu'on soit là pour contrôler les choses plutôt que de laisser faire n'importe quoi. Et il y aura moins de risques avec nous. Donc je crois quand même à l'éthique de mes confrères, même s'ils peuvent être impliqués quelquefois dans ces trucs-là. Et je pense qu'ils le font vraiment, que pour la plupart d'entre eux, ils le font vraiment pour limiter les dégâts, en se disant peut-être ces choses-là, elles existent. Essayons que ce soit le moins possible nocif. C'est une opinion toute personnelle que je vous livre. Éradiquer le dopage, c'est difficile parce que je pense qu'il y aura toujours des tricheurs. C'est la nature humaine. Hein. Et je pense que dans une compétition, à partir du moment où il y a un dopé, c'est difficile pour les autres, pour la plupart des autres, de ne pas suivre. Parce que si effectivement le dopage et certaines méthodes de dopage peuvent apporter de tels avantages à quelqu'un, il est difficile que les autres n'en fassent pas autant. Moi, je vous rappellerai la remarque qui a été faite par Ben Johnson après les JO de 88 à Séoul, où il a été donc privé de sa médaille et de son record du monde pour dopage, en disant au cours de cette finale, j'étais le meilleur dopé. Mais ça concerne que Ben Johnson.
Très bien. J'ai juste une dernière question. Est-ce que vous pensez que le dopage ne touche que les sportifs professionnels, ou est-ce que vous pensez que chez les sportifs amateurs, on retrouve le dopage dans le sport loisir?
Je pense que voilà, vous abordez là peut-être un des sujets les plus dramatiques de l'histoire. C'est qu'on dit dopage égale sport professionnel égale fric. Donc c'est le fric qui est la cause du dopage. D'abord, le dopage existe depuis toujours. Hein, depuis que le sport est sport, le dopage existe. Le dopage n'existe pas que dans le sport, il existe dans la société tout entière. Hein, je veux dire, les hommes d'affaires qui prennent des produits pour être en forme, les gens qui prennent des produits pour être plus cool. Bon. Donc là, on aborde un domaine peut-être qui dépasse un petit peu notre thème. Mais le dopage existe effectivement chez le cycliste du dimanche, qui, pour mettre 10 mètres dans la vue à son copain et monter un col plus vite, peut être amené à prendre des produits. Et là, je pense que c'est lamentable. C'est pas que j'excuse le dopage chez les sportifs professionnels. J'excuse pas du tout, hein, de manière éthique. Et puis surtout, il met sa santé en jeu. Mais voilà un type, on va dire qu'un sportif professionnel joue quelque part sa carrière, sa vie, etc. sur quelque chose. On peut admettre qu'il puisse être tenté à un moment donné de passer un palier en utilisant des méthodes. Mais enfin, franchement, se doper pour une sortie du dimanche matin ou pour Marseille-Cassis. Bon, je ne fais pas de publicité pour le semi-marathon, qui est très très sympa, au contraire, j'en fais d'ailleurs. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui cloche, quoi, hein, parce que là, c'est du sport santé. Donc, on fait du sport pas pour la compète, pas pour les résultats, pour la santé. Si on se prend la tête et qu'on prend quelque chose pour faire quelques secondes de plus, de moins, je veux dire, à Marseille-Cassis, ou monter le col un peu plus vite que son copain. Et ça existe effectivement dans le cycliste amateur. J'ai des gens que je connais qui font du cycliste amateur qui m'ont dit qu'il y avait des types qui prenaient des petits trucs pour aller plus vite que leurs copains, quoi. Et ça, c'est débile, quoi. Là, c'est carrément débile. Voilà, on peut le dire.
D'accord. Ben, j'ai fini les questions que j'avais vous posées. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour répondre à ces quelques questions. Et j'espère que votre avis aura éclairé beaucoup de nos auditeurs sur le sujet du dopage et de l'amélioration des performances sportives de manière globale. Je vous remercie encore.
Ben, moi aussi, je vous remercie de m'avoir posé ces questions qui m'ont beaucoup intéressé. Oui, j'espère moi aussi que mon avis a pu éclairer quelques personnes. Mais bon, s'il y a un message à faire passer, c'est que La dernière question que vous m'avez posée, le sport, c'est la santé. Le sport le plus dangereux, c'est la sédentarité. Donc il faut faire du sport, mais bon, il faut faire du sport pour être en meilleure santé. Il ne faut pas faire du sport pour se bouffer la santé. Voilà.
D'accord, merci pour ces derniers conseils pour nos auditeurs. Donc un petit peu de sport tous les jours, histoire de garder la santé, mais sans se la bouffer. Je vous remercie, docteur.
Après avoir écouté l'opinion très instructive d'un praticien, écoutons maintenant l'avis du grand public à travers un micro-trottoir réalisé par Nicolas Fabry.
Quels sont les sports qui, selon vous, ne sont pas concernés par le dopage ?
Je pensais aux fléchettes ou au badminton.
Quels sont, selon vous, les plus touchés ?
Les plus touchés, le culturisme, le football, je pense tous les sports qui ramènent de l'argent.
Savoir que les sportifs sont dopés vous gâche-t-il le plaisir ?
Ah non, au contraire, ça multiplie les performances et ça donne un côté spectaculaire à leurs prestations.
Seriez-vous pour ou contre la légalisation du dopage et ainsi avoir du sport spectacle comme le football américain aux États-Unis ?
Ah oui, carrément, c'est clair que ça changerait du championnat français à l'heure actuelle, surtout le PSG.
Saviez-vous que des chercheurs travaillent sur les équipements pour améliorer les performances ? Ne trouvez-vous pas que cela rende le sport complètement inégalitaire ?
Pas du tout. En ce qui concerne l'argent, celui qui a le plus d'argent gagne, ça me semble normal.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Quels sont les sports qui, selon vous, ne sont pas concernés par le dopage ?
Je penserai au curling, peut-être au croquettes à la rigueur.
Quels sont, selon vous, les plus touchés ?
Ah, je dirais sans conteste le cyclisme, voire même le foot.
Quels sont les sports qui, selon vous, ne sont pas concernés par le dopage ?
Qui ne sont pas concernés par le dopage ? Bah, y en a aucun, à mon avis. Enfin, je pense. Enfin, j'en vois aucun, personnellement.
D'accord. Quels sont, selon vous, les plus touchés ?
Les plus touchés ? Bah, ceux qui sont les plus médiatisés. Le cyclisme, la boxe et le football.
Savoir que les sportifs sont dopés, vous gâche-t-il le plaisir de les voir à la télévision ou au stade ?
Ah ouais, complètement, ça gâche le sport. Puis bon, bah, ça gâche le spectacle.
D'accord, mais ils courent plus vite.
Ouais, mais bon, c'est pas réel. C'est, ils sont dopés, donc c'est irréaliste. Donc c'est un peu... C'est dommage, quoi.
Seriez-vous pour ou contre la légalisation du dopage et ainsi avoir uniquement du sport spectacle comme le football américain ?
Moi, je serais contre la légalisation. Non, je suis contre.
Savez-vous que des chercheurs travaillent sur les équipements pour améliorer les performances ? Ne trouvez-vous pas que cela rend le sport inégalitaire entre ceux qui peuvent les payer et ceux qui ne peuvent pas les payer ?
Oui, en effet. Oui, je pense, oui. Bah, je ne savais pas qu'il y avait des chercheurs qui déjà travaillaient là-dessus. Bah ouais, ça rend le sport complètement inégalitaire, quoi, c'est clair.
Nous allons poursuivre la discussion avec Maxime Guiraud. Maxime Guiraud, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous nous réjouissons de votre présence parmi nous aujourd'hui.
Je vous remercie.
Et vous allez nous apporter votre témoignage en tant que sportif de haut niveau dans deux disciplines particulières que vous allez nous présenter, qui sont d'une part la force athlétique et d'autre part le bras de fer. Alors, je crois savoir que vous êtes champion des Bouches-du-Rhône en développé couché, c'est bien ça ?
C'est ça.
Et vous êtes d'autre part étudiant à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, où vous poursuivez des études en maîtrise de droit public.
Également.
Alors, pouvez-vous nous présenter brièvement votre discipline ?
Alors, la force athlétique, c'est une discipline qui se décompose en trois mouvements, qui sont le développé couché, le squat et le soulevé de terre. Et pour ma part, je ne pratique que le développé couché. Et les compétitions consistent à soulever la charge maximale et les concurrents sont répartis par catégorie de poids et donc il s'agit d'obtenir le meilleur indice possible et d'avoir donc le meilleur rapport poids-puissance réalisable.
Et pour ce qui est du bras de fer ?
Et pour ce qui est du bras de fer, il y a également des catégories de poids, tous les 5 kilos. Et bon là, ça, c'est un petit peu plus simple, l'exercice consiste à simplement battre son adversaire.
Très bien. Dans le cadre de votre discipline, bénéficiez-vous d'un équipement particulier ?
En bras de fer, il n'y a pas d'équipement particulier. Après, en développé couché, oui, il y a un équipement qui suscite un petit peu la controverse en ce moment. qui est le maillot de contention, puisque à l'origine c'est un équipement qui a été conçu pour éviter les blessures, principalement les blessures au niveau des épaules, des deltoïdes antérieurs. Et puis avec le temps et l'amélioration de la matière dans laquelle le maillot est fabriqué, on s'est aperçu qu'il pouvait également améliorer les performances. Et puis, de fil en aiguille, différentes marques ont proposé différents maillots dans différentes matières à divers coûts. Et puis, l'un dans l'autre, il y a une espèce de course au maillot qui s'est enclenchée. Donc, des maillots qui valent maintenant très cher. Certains maillots valent 150, 200 euros, etc. Et selon la qualité du maillot et donc son prix, on peut obtenir un gain de force, donc des avantages. Et les compétitions sont un peu devenues la course au maillot. Donc, la fédération, tous les ans, pense peut-être éventuellement à interdire le maillot de contention. Mais pour l'instant, ça n'a pas eu lieu, donc les concurrents ont encore le droit de porter ce type d'équipement, oui.
D'accord, très bien. Et vos concurrents portent-ils tous ce genre de combinaison ?
Alors bien sûr, je pense que le problème est là, c'est-à-dire que le port du maillot n'est pas obligatoire, mais il est possible. Et comme il occasionne quand même un gain de force certain, si on n'a pas de maillot, on n'est absolument pas compétitif. Donc les concurrents sont obligés de venir concourir avec un maillot, sans quoi ils sont condamnés à des performances qui seront très inférieures à celles des autres sportifs contre lesquels ils devront se battre.
Donc vous estimez qu'en fait le port de cette combinaison procure un substantiel avantage à celui qui la porte ?
Alors indéniablement, hein, après selon la qualité et le prix du maillot, on peut gagner sur une barre 20-25 kilos, hein, facilement. Donc évidemment, il est impossible de participer à une compétition et d'avoir un classement correct, surtout quand on commence des compétitions interrégionales nationales. Il est impossible d'avoir un classement correct sans porter un maillot de qualité.
Merci. Concernant la problématique du dopage, votre discipline est, en raison de sa nature même, susceptible d'être un terrain privilégié pour le dopage. Qu'en pensez-vous ?
Oui, bien sûr, parce que c'est une discipline qui fait appel à l'afflux nerveux, au développement de la masse musculaire, à la force, à la vitesse. Donc bien sûr, l'utilisation de différents médicaments dopants, soit les bêta-bloquants, les stéroïdes anabolisants, etc., peuvent occasionner un gain de force certain. Oui.
Alors, petite question indiscrète, mais vous savez qu'ici on se dit tout. Alors, avez-vous déjà été confronté au dopage de manière directe ou indirecte ?
De manière indirecte, oui. Maintenant, moi, étant relativement jeune encore, c'est une pratique à laquelle je ne pense pas. Hein. Mais bien sûr, on sait que ça existe. Et puis bon, même si chacun prétend que personne ne prend rien, tout le monde sait que chacun prend quelque chose.
D'accord. Donc en fait, c'est un peu un tabou, un non-dit, mais...
Ouais, c'est un non-dit, mais c'est... Bon, clairement, c'est une pratique qui a lieu, oui.
D'accord. Et donc, vous participez à des rencontres nationales ? Et dans ce cadre, avez-vous déjà été contrôlé ?
Alors bien sûr, on est contrôlé en fait dès les rencontres interrégionales. Hein, il y a des contrôles urinaires suite à la compétition. Et puis donc a fortiori, lors de rencontres à résonance nationale, systématiquement, ouais, bien sûr, on est contrôlé. Ouais.
Tout à l'heure, vous parliez d'un non-dit, d'un tabou. Et donc face à l'hypocrisie ambiante, seriez-vous pour une légalisation du dopage, c'est-à-dire à l'instar de ce qui se fait en matière de football américain aux États-Unis ?
Bon, c'est un petit peu compliqué, je pense que le docteur en a parlé tout à l'heure. Bon, une régularisation massive, à mon avis, n'est pas la solution, puisque bien sûr, il y a des risques pour la santé, maintenant, une législation partielle peut-être, mais le but en fait, ce sur quoi je voudrais mettre le doigt, c'est que la prohibition, donc dans les années 70, de l'usage de ces médicaments dopants a ouvert un marché parallèle considérable et a permis à un certain nombre de dealers et de gens sans scrupules de pénétrer le marché des produits dopants et donc de mettre sur le marché des substances et des produits qui sont de très mauvaise qualité, qui sont des contrefaçons et qui présentent donc un danger pour la santé encore supérieur aux médicaments originels. Donc comme, si vous voulez, la demande reste constante, comme disait le docteur, depuis que le sport est sport, les sportifs ont recours au dopage, comme la demande reste constante, le fait que l'usage des médicaments dopants soit prohibé fait que les sportifs vont chercher des produits dopants et vont chercher à acheter, à se produire ce type de substances n'importe comment. C'est-à-dire par Internet, ces médicaments qui viennent d'Europe de l'Est, qui viennent, par exemple, le médecin en parlait pour l'hormone de croissance, c'est des hormones de synthèse qui viennent d'Extrême-Orient, etc. Donc des produits de très mauvaise qualité, qui ont un très grand risque pour la santé. Mais bon, c'est un effet qui est connexe à toute forme de prohibition maintenant, mais qui est quand même relativement problématique. Donc pourquoi pas une légalisation partielle, mais c'est vrai que c'est un sujet très délicat, puisque, comme le soulignait le médecin, il y a des effets secondaires sur la santé, indéniablement.
Merci. Avez-vous un message particulier à faire passer auprès de ceux qui nous écoutent ?
Oui, sans doute. Bon, je voudrais dire que, bon, comme on l'a entendu un petit peu au niveau du micro-trottoir, c'est vrai que le dopage est une pratique très répandue. Il faut savoir qu'en fait, quand on pratique un sport, il y a trois données en fait qu'il faut observer, qui sont bien sûr l'entraînement, l'alimentation et la récupération. Et donc l'entraînement, la récupération et l'alimentation sont trois données qui sont parfois très difficiles à concilier. Ça demande une hygiène de vie particulière. Et donc quand on est dans une optique de performance, qu'on soit amateur ou professionnel, on peut facilement avoir recours au dopage, puisque, comme le disait le médecin, les contraintes pour la santé au niveau de l'entraînement sont importantes. Donc, quand on n'est pas dopé, on a régulièrement des faiblesses, on a régulièrement des petites baisses de performance. Donc, c'est un travers dans lequel on peut tomber assez facilement. Il faut être relativement fort mentalement pour s'en préserver. Mais le sport de haut niveau, même en amateur, quelque chose de difficile. Et c'est surtout la rigueur alimentaire et les exigences de récupération, puisque le corps doit absolument récupérer des entraînements qui sont vraiment... c'est quelque chose de vraiment éprouvant, et voilà, c'est simplement le message que je voulais faire passer.
Maxime, nous vous remercions pour votre témoignage.
Merci à vous.
Nous remercions également le docteur Bévilacqua pour sa disponibilité et pour l'éclairage qu'il nous a apporté. Nous espérons, chers auditeurs, que cet échange de points de vue, que ces regards croisés sur la problématique du dopage vous ont permis de mieux saisir les enjeux actuels et futurs de cette problématique. Et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour une prochaine émission des Savants de Marseille sur Radio Grenouille.